Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct de la Maison de la Radio pour un grand bien vous fasse qui accompagne votre quotidien bouleversé. Dans la première partie de l'émission, vers 10h05, vous retrouverez la chronique de Sophia Aram. Le temps de regarder une série, c'est avec le journaliste Xavier Le Herpeur qui évoquera une série Netflix, Unorthodox. Redouane Tella de l'Instant M prendra le temps de regarder la télé, il vous recommandera un téléfilm diffusé sur France 3, La vie de Mimi. Nous prendrons également le temps de réfléchir à notre situation avec Alexandre Lacroix, directeur du mensuel Philosophie Magazine, qui s'appuiera sur le philosophe américain John Dewey. Dans la seconde partie, nous recevrons une personnalité qui réfléchira au monde de l'après-confinement. Ce matin, la journaliste Ariane Chemin. Nous prendrons également le temps de cuisiner maison avec notre chef Grégory Cohen. Au menu ce matin, un tartare de betterave et un cheesecake. Et le temps de lire, ce sera avec Christy Lapelle-Edouel, qui vous recommandera de lire ou de relire Colette. En fin d'émission, un peu d'air frais, coup de projecteur sur l'excellent documentaire d'Arte consacré à l'obésité mondiale et qui sera diffusé demain. Nous recevrons les réalisateurs Sylvie Gillemand et Thierry Delestrade et Karine Clément de l'Inserm. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 sans oublier l'appli France Inter. Mais avant cela, nous attendons toutes vos questions santé sur le Covid-19. Pour vous répondre, notre médecin Baptiste Beaulieu et le professeur en virologie Vincent Maréchal. Le standard vous est ouvert ainsi que la page Facebook de Grand Main vous fasse. Nous verrons également ce qu'est un patient zéro en compagnie du médecin Luc Perrineau. Tous ensemble à la maison, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin généraliste à Toulouse, chroniqueur dans l'émission et coordinateur d'un centre Covid-19. Bonjour professeur Vincent Maréchal, bienvenue.
Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs.
Vous êtes chercheur à l'Inserm, vous êtes virologue et vous enseignez à Sorbonne Université Sciences.
Alors,
pardon ?
Pas tout à fait, si je peux me permettre, je suis professeur enseignant-chercheur dans un laboratoire à Inserm et à Sorbonne Université.
Alors, c'est pas totalement faux ce que j'ai dit.
Petite
révision, Vincent Maréchal, rappelez-nous comment se transmet le Covid-19. Et existe-t-il par exemple des preuves irréfutables de la transmission du coronavirus par voie aérienne ?
Alors, on va, pour dire les choses relativement simplement, il y a des voies qui sont bien décrites. Et puis des voies qui sont encore à confirmer. Alors la voie, il est important de rappeler que la voie principale qui est évoquée, c'est une voie qui est principalement liée à ce qu'on appelle des postillons. Mm-hmm. Lorsque le virus est dans les voies respiratoires supérieures, le fait de tousser, d'éternuer envoie des gouttelettes qui peuvent effectivement contaminer les personnes autour de vous, mais également contaminer les objets. Alors je profite de cette occasion pour rappeler que les masques, même les masques simples, permettent de bloquer justement ces petites gouttelettes et d'éviter de contaminer les gens autour de nous. C'est une des principales raisons du port du masque. On sait également que le virus peut persister sur des surfaces inertes, ce qui veut dire qu'on peut se contaminer les mains et ensuite ces mains qu'on porte très fréquemment au visage peuvent également véhiculer le virus. Donc ça, c'est la justification du lavage des mains régulier et de l'utilisation de gel hydroalcoolique. Et puis on a également une voie qui est en cours d'exploration, qui est par l'intermédiaire des selles. On sait que les selles sont contaminées par du virus et donc on aimerait savoir quelle est leur contribution à la circulation. Et enfin, effectivement, cette question que vous avez de l'air. Alors les gens confondent en fait deux notions et c'est difficile, ça je peux tout à fait le comprendre. Dans l'air se retrouvent de façon très temporaire ces petites gouttelettes que l'on expulse quand on éternue et qui sont bloquées par les masques. Et effectivement, dans l'air se pose la question de savoir si le virus ne peut pas persister de façon plus pérenne pendant quelques heures sous forme de ce qu'on appelle des aérosols, c'est-à-dire des microparticules inférieures à 5 micromètres. Et donc ça c'est une voie d'exploration très importante aujourd'hui et très difficile à explorer.
Combien de temps survit un virus sur les mains et sur des surfaces comme le carton, le papier, le plastique?
Alors c'est bon, il y a des études qui sont principalement aujourd'hui des études de laboratoire qui semblent montrer, peut-être contrairement à ce qu'on a pu dire au début en disant que le virus, c'est un virus qui est fragile, il faut quand même le rappeler. Il y a deux catégories de virus, les virus qu'on appelle nus, qui sont des virus qu'on va retrouver pendant plusieurs mois dans l'environnement, par exemple le virus de la poliomyélite, les virus des gastro-entérites hivernales, et puis ces virus qu'on appelle des virus enveloppés, qui sont, cette enveloppe est une source de fragilité du virus. On considère en général que ces virus sont sensibles au séchage, sont sensibles à la chaleur. Bon, les études qui sont faites en laboratoire respiratoire montre quand même que ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire le temps nécessaire pour abattre la quantité de virus infectieux de 50% dans l'environnement, et ça dépend beaucoup du support du virus, mais ce taux de demi-vie peut être de plusieurs jours éventuellement dans certaines situations. Donc c'est des points effectivement très importants à évaluer, pour lesquels chaque jour on a des données nouvelles.
Mais est-ce que les charges virales sont très élevées sur le carton, le plastique, des emballages quand on rentre des courses par exemple?
C'est excessivement difficile à évaluer, puisqu'en fait cette charge virale dépend beaucoup de ce qui a contaminé le carton en question. On pense quand même que moins il y a de temps, si vous voulez, entre la contamination d'un support et le fait que quelqu'un de non contaminé mette la main dessus, ça c'est un facteur qui est aussi important que la charge virale. Si vous avez des mains propres, si vous passez les mains au gel hydroalcoolique et qu'ensuite vous touchez un objet, la charge virale est quasiment nulle, et le risque est nul également. Voilà. Et au bout de quelques jours, on a beaucoup évoqué cette question, quand un paquet voyage, au bout de quelques jours, le risque sanitaire est quasiment nul, voire nul totalement.
Baptiste Beaulieu.
Oui, c'est intéressant parce que ça rejoint aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire des courses en fait quand on va faire ses courses alimentaires. Comment est-ce qu'on doit gérer l'entrée dans la maison et avec son paquet de courses? Alors il y a pas vraiment de consensus, hein, mais je crois, pour rejoindre un peu les propos du professeur Maréchal, il faut garder à l'esprit que pour le moment les chiffres concernant la durée de vie du virus, ben ça fluctue un peu d'une étude à l'autre. Moi je me base sur ceux de l'Organisation mondiale de la santé. Elle a fourni un tableau qui est récapitulatif avec la durée de vie du virus sur les différentes surfaces. Et alors, d'après ce tableau, ça resterait que quelques minutes sur la peau, jusqu'à 12 heures sur les vêtements et jusqu'à 9 jours sur le plastique. Mais comme je dis, ça varie beaucoup. Pour ce qui est des courses, ce qui paraît important, c'est que quand vous arrivez chez vous, peut-être laisser les courses au moins 2-3 heures à l'air libre, dehors sur le perron. Et puis, de toute manière, il faut aérer votre domicile, ça c'est très important. Et puis, à l'aide d'une petite lingette désinfectante, nettoyer les emballages plastiques et passer les fruits et légumes sous l'eau claire. Mais je voudrais revenir sur une petite chose qui rejoint vraiment les propos du professeur Maréchal. Ça me paraît intéressant de retenir que le virus se transmet par les muqueuses et pas à travers la peau. C'est-à-dire, en gros, que si quelqu'un vous touche sur le bras et qu'il a du virus au bout du doigt, ben le virus ne va pas passer à travers l'épiderme pour entrer dans votre sang. Il faut qu'avec votre doigt, par exemple, au hasard l'index, vous touchiez la peau de votre bras où a été déposé le virus pour ensuite vous toucher une de vos muqueuses, les fosses nasales, la cavité buccale, les yeux. En gros, de toute manière, il faut retenir que d'une manière générale, il faut éviter de se toucher le visage après avoir touché les courses ou quelque chose à l'extérieur, quoi. En fait, tout simplement, il faut imaginer le virus comme des paillettes. Vous savez, des paillettes, quand on y touche une fois avec les doigts, après on en a partout, on s'en met partout. Eh bien là, il faut absolument ne pas s'en mettre dans le nez, dans les yeux, dans les oreilles.
Professeur Vincent Maréchal, a-t-on raison de faire un détour de 3 mètres quand on croise quelqu'un dans la rue? J'exagère évidemment, mais est-ce que, et plus largement, dans quelles conditions une personne que je croise dans la rue peut me contaminer?
Je pense qu'il faut quand même être. La difficulté aujourd'hui, c'est la pondération et c'est le fait d'essayer d'avoir une vision relative du risque. Encore une fois, je voudrais juste caricaturer les choses. Si vous discutez à 50 cm de quelqu'un qui, en même temps qu'il vous parle, vous crache dessus, n'a pas de masque et vous envoie du virus au visage, là vous êtes vraiment dans des situations extrêmes. A fortiori si vous êtes dans un espace clos, d'accord. Si vous promenez dans la rue, le virus qui part de la bouche, pour dire les choses simplement, ou des muqueuses d'une personne infectée, va très rapidement, a fortiori s'il y a un petit peu de vent, va quand même très rapidement se diluer dans l'environnement. Donc on est dans une situation où le fait d'être à l'air libre dans un espace qui n'est pas confiné est effectivement très défavorable à la circulation. Alors a fortiori si tout le monde porte un masque dans l'idéal, et on connaît la difficulté aujourd'hui sur cette question-là, mais si les gens portent devant la bouche quelque chose qui empêche les postillons de partir, eh bien on va limiter effectivement de façon très très importante la circulation du virus. Donc croiser quelqu'un dans la rue, si on respecte les distances de précaution qui sont de l'ordre d'un mètre, ça suffit très très largement probablement à limiter la circulation et donc l'infection d'une personne non affectée. Voilà.
Baptiste Beaulieu, vous l'avez constaté également, ces personnes qui vous évitent de façon ostentatoire et qui font des détours de 2-3 mètres pour pas vous croiser.
Oui, je trouve que du coup ce qui vient d'être dit est important parce que ces détours là que vous évoquez, je trouve que ça participe énormément au climat anxiogène dans lequel baigne le pays actuellement. Et si on pouvait remettre un petit peu de rationalité, c'est-à-dire que si vous croisez quelqu'un dans la rue qu'il est à 2 mètres de vous, c'est pas la peine de vous écarter de 15 mètres ostensiblement, ça fait que rajouter du drame à la situation déjà dramatique que nous vivons actuellement, hein.
Vincent Maréchal,
tout à fait. Oui, pardon, excusez-moi.
Allez-y.
Non, mais je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il est à la fois, très important à mon sens, et c'est peut-être mon côté professeur enseignant qui ressort, d'être très pédagogue et d'essayer de donner aux gens des messages clairs, de manière à ce qu'ils ne transforment pas leur vie en un enfer. On sent bien que ce confinement est très très difficile à vivre. Je pense qu'il faut arriver à avoir quelques éléments clés qui permettent de réduire la circulation du virus, tout en faisant en sorte que nos relations sociales, en particulier, qui sont déjà pas évidentes, ne deviennent pas terribles. Quelqu'un qui fait un détour, c'est quand même un signe de défiance qui est très important et c'est pas forcément justifié.
Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un porteur sain du Covid-19 et pourquoi ce porteur ne développe pas de symptômes, Vincent Maréchal ?
Alors, je vais peut-être aborder la question sous deux angles. Mm-hmm. D'abord, le terme de porteur sain, je trouve qu'il est assez mal choisi, parce qu'en fait, il mélange deux notions. Mm. Oui. Il mélange deux notions. Donc, une notion qui concerne la personne qui porte le virus. Mm-hmm. Donc, on parle bien d'une personne qui est infectée. Mm-hmm. Et ce terme de sain, qui est un peu problématique, parce qu'en fait, ça veut dire sain, c'est le porteur qui est sain dans le sens où il ne développe pas la maladie. Mm. Mais il n'est pas sain dans le sens où cette personne-là peut transmettre la maladie. Donc, moi, je préfère un terme qui me semble peut-être plus juste, qui est le terme de porteur non symptomatique. Mmh. Parce que justement, on a aujourd'hui en fait plusieurs catégories de personnes qu'on peut croiser, des personnes qui ne sont pas infectées du tout, et celles-là nous posent effectivement un certain nombre de questions, parce que ce sont celles qu'il faut protéger, et qui peuvent transmettre le virus dans l'avenir. Ce qu'on appelle les porteurs asymptomatiques, qui peuvent probablement transmettre le virus, peut-être un peu moins que les autres, mais ils peuvent le faire, et ceux-là, on les détecte pas, on n'a pas de signes cliniques pour les détecter. Et puis on a ensuite des gens qui vont développer des signes cliniques, avec une période d'incubation qu'on peut rappeler, hein, qui en général est de 3 jours à peu près, mais qui va de 2 à 14 jours d'après ce qu'on peut comprendre. Et dans cette population de patients symptomatiques qui vont développer des signes cliniques, on a un petit peu tout, et c'est une des difficultés également, des gens qui vont développer des signes cliniques tout à fait mineurs et pas très spécifiques. On a parlé de ces maux de tête, on a parlé de myalgie, donc de douleurs musculaires, de la température qui n'est pas forcément constante. Alors ces gens-là évidemment sont infectés et peuvent transmettre. Et puis on a ce qu'on appelle les gens qui développent des formes graves, des formes sévères. Alors ce qui est important pour nous, c'est de comprendre à peu près la proportion de ces différentes personnes qui probablement peuvent toutes transmettre le virus. Donc aujourd'hui, dans les différentes études, on voit en gros qu'on aurait peut-être 30% d'asymptomatiques, très difficile à quantifier puisque par définition on n'a pas de forme clinique, 50% de gens qui ont des formes légères, 10% de gens qui développent des formes graves et puis 5% qui développent des formes très très graves. Et donc les seuls qu'on voit à l'hôpital sont les formes sévères et les formes très graves, et donc on a une vision très 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 partielle probablement de la circulation du virus dans nos populations.
Allez, nous attendons toutes vos questions en santé sur le Covid-19 au 01 45 24 7000. Alexia Rivière, Julia Macarez, Denis Deras et Josepha Gourvennec m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Céline Hilla avec l'aide de Claire Destacan. À la technique ce matin, Alexandre Chénet.
J'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau. S'il te plaît, croque-moi les os. S'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tours, petit sein, sinu pointu, zédo du deux, noisette. Thank you.
Olivia Ruiz, la femme chocolat.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
9h25 et nos experts attendent de toutes vos questions santé sur le Covid-19. Bienvenue Anne.
Bonjour, merci de prendre ma question. Vous m'entendez ?
Oui, on vous entend très bien Anne.
Voilà, moi je vous appelle, c'est au sujet si le Covid-19 peut apparaître par des ennuis intestinaux. Ça veut dire un réveil avec une bouche totalement sèche, impossible presque d'avaler sa salive. Ensuite, une grande fatigue qui a suivi. Ensuite, des ennuis intestinaux, ça veut dire un transit accéléré qui se poursuit sur plusieurs jours. Et aussi quand même l'appel à mon médecin qui m'a dit c'est peut-être un petit Covid-19, je ne suis pas inquiète, mais restons vigilants. Et je voudrais savoir quels seraient les symptômes qui pourraient se suivre. Est-ce que ça va être des symptômes respiratoires ou est-ce qu'au contraire, elle ne veut pas que je prenne, parce que j'ai fait quelques vertiges dans ma vie, elle ne veut pas que je prenne du cercle, elle ne veut pas que je prenne non plus d'air céphoril. Et je voudrais savoir, donc je suis Smecta, je suis... spasmes si j'en ai besoin, parce que ça, quand même, les spasmes, c'est difficile. Et je prends, enfin, des tisanes. Je bois énormément.
Voilà. Baptiste Beaulieu va vous répondre, Anne. Baptiste.
Oui, c'est une très bonne question, parce qu'elle pose la question du tropisme de ce virus. Alors, on sait qu'il a un tropisme principalement pulmonaire, mais on pense qu'il a également un petit tropisme ORL, puisqu'on a décrit, vous savez, une anosmie aguë, une perte de l'odorat, une perte du goût. Et a priori, il a également un tropisme digestif, puisque certains patients se plaignent de petites crises diarrhéiques avec un transit très, très accéléré. Qui rejoint un peu le propos du professeur Maréchal tout à l'heure qui parlait de la présence du virus dans les selles. En l'occurrence, là, ce que décrit Anne, ça peut tout à fait être une petite gastro-entérite banale, hein, vous savez, parce que on parle beaucoup du Covid, mais il y a toujours les autres virus qui se baladent. Quant à prédire la suite des symptômes que pourrait présenter notre auditrice, ce serait bien compliqué de le faire. Ce qui est certain, c'est que si jamais elle venait à présenter des difficultés respiratoires avec une toux sèche, une perte de goût, une perte de l'odorat, ce serait bien qu'elle rappelle son médecin. Et de toute manière, actuellement, le plus important, il faut le dire et le redire, c'est le suivi des patients suspects. Alors que ce soit en présentiel au cabinet, même si on préfère éviter le présentiel pour éviter les contaminations, mais en téléconsultation, ce serait bien qu'elle rappelle son médecin dans 2-3 jours pour faire le point avec lui.
Professeur Vincent Maréchal, je rappelle que vous êtes virologue. De quelle façon le coronavirus entraîne-t-il des difficultés respiratoires ?
Alors, ce sont des choses évidemment très très importantes. C'est assez compliqué parce qu'on pense que la maladie est d'abord une maladie virale. Ça, c'est une évidence. Et donc, la multiplication du virus peut entraîner des lésions dans les cellules qui sont infectées. C'est une des premières hypothèses. Mais on a aussi le sentiment qu'assez rapidement, cette infection virale, et c'est peut-être une des caractéristiques d'ailleurs de cette infection, on l'a vu dans d'autres, peut entraîner une réponse de l'organisme qu'on appelle une réponse innée, c'est une réponse qui est non spécifique, qui est une réponse, une partie importante de la réponse immunitaire, qui est une réponse qui se met en place en quelques jours ou en quelques heures. Et cette réponse innée peut également avoir des effets délétères. Donc elle vise évidemment à contrôler les multiplications, la multiplication des virus, mais elle peut avoir des effets importants et notamment contribuer à un délabrement local des tissus. Donc en fait, c'est très important à comprendre parce que dans les formes les plus graves, en particulier, eh bien on voit que la maladie est d'abord une maladie virale, pas forcément très symptomatique, et que plus on progresse, plus on arrive dans une maladie qui échappe à la présence du virus. C'est très important d'un point de vue thérapeutique, parce que ça veut dire, et ça on peut peut-être le rappeler ici, que l'utilisation des antiviraux est sans doute très pertinente au tout début de l'infection, quand le virus est très actif, et puis lorsque la maladie, si c'est vrai, si ça se confirme, devient une maladie immunitaire entre quelque sorte, une dérégulation de l'inflammation locale, eh bien là les approches sont plutôt des approches qui vont cibler la réponse de l'organisme contre le virus.
Baptiste Beaulieu, Denis nous demande ce qu'est un orage inflammatoire, les fameux orages de cytokines. Expliquez-nous un peu ce que c'est.
Oui, c'est un terme qu'on voit beaucoup apparaître sur Internet, sur les réseaux, ce terme d'orage cytokinique. Tout simplement, c'est une sorte de réaction inflammatoire qui est massive et qui, en général, s'installe en réponse à une infection. Alors, pas forcément, mais le plus souvent, c'est en réponse à une infection. Et elle provoque un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec une défaillance d'organes. Alors, en gros, pour synthétiser, c'est une sorte de réaction immunitaire qui est disproportionnée de l'organisme contre le virus et ça se retourne contre l'autre avec les conséquences délétères que l'on connaît. Juste pour revenir, les cytokines sont des petites protéines qui servent à signaler les cellules infectées, établir des ponts de communication entre les cellules. Je vulgarise beaucoup, hein, là. Et quand cette réaction elle est hors de contrôle, eh bien, elle provoque des œdèmes, un colapsus et une baisse de la tension artérielle et puis parfois des complications qui doivent faire prendre en charge les patients en réanimation.
Professeur Vincent Maréchal, deux dernières questions. Tout d'abord, on ne sait plus trop à quel sens se vouer concernant le port du masque. Mieux vaut porter un masque, même en tissu, que pas de masque du tout.
Alors, c'était un peu le sens du message, mais peut-être que je l'ai avancé un peu trop tôt. Non, effectivement, on sait pas à quel sens se vouer pour des raisons qui sont évidentes, hein. C'est qu'on a commencé avec des stocks de masques très limités qu'il a fallu réserver au personnel soignant. Je rappelle que c'est une démarche qui est tout à fait justifiée puisque ce sont les personnels les plus exposés et puis ce sont quand même eux qui s'occupent des malades. Donc on est content de savoir qu'ils sont en forme et c'est aussi l'occasion encore une fois de féliciter l'ensemble des acteurs dans les hôpitaux, mais pas seulement, aussi dans les EHPAD qui contribuent à lutter tous les jours contre ces problématiques. Alors, le port du masque, il est important de comprendre qu'il y a le masque, c'est une barrière physique, donc on rentre vraiment dans les dispositifs de protection qui cassent la circulation, qui visent à casser la circulation du virus. Et on cherche à la casser dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on cherche, par exemple à l'hôpital, à protéger les personnels soignants. Donc là, ce qu'on veut, ce sont des masques qui sont les plus efficaces possibles. Alors, on a parlé notamment des masques FFP2, qui visent à faire en sorte qu'un malade qui crache du virus, pour dire les choses simplement, ne contamine pas le personnel soignant. Alors aujourd'hui, on met même plus que des masques dans certains services pour protéger les personnels soignants. Et puis, il y a cette idée dont je l'évoquais tout à l'heure, des postillons qui vont contenir du virus, qui risquent de contaminer à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de distance éventuellement des gens lorsque l'on éternue ou lorsque l'on tousse. Hein. Je vous rappelle aussi que le geste barrière simple, c'est quand on tousse, de mettre le creux du coude devant la bouche, hein, pour éviter justement la projection de ces postillons. Et donc là, il est important de rappeler que toute barrière que l'on va mettre devant la bouche va permettre de bloquer ces postillons. Alors là, un masque relativement simple peut déjà, sans être absolu, peut déjà être une barrière. Et ce jeu de l'addition des barrières est essentiel pour casser cette circulation entre les personnes infectées et ceux qui ne le sont pas.
Dernière question, une question qui revient ce matin. Est-on sûr que les patients guéris du Covid-19 sont immunisés ? Vincent Maréchal.
Oui, ça c'est la grande question. C'est la grande question parce que classiquement, dans les schémas qu'on connaît, vous êtes infecté par un agent pathogène. Il y a cette réponse innée dont on vient de parler, et notamment dans le cadre de cette tempête cytokinique, de cette inflammation, qui est une partie de la réponse immunitaire. Mais en général, au bout de quelques semaines, on développe une réponse qu'on appelle immunitaire spécifique, qui est une autre réponse immunitaire, hein, qui est pas celle qu'on évoquait tout à l'heure, qui est une réponse qui est spécifiquement dirigée contre les agents pathogènes. Donc on sait aujourd'hui que les gens qui sont infectés quelques semaines après vont produire notamment des anticorps qui peuvent être protecteurs, hein, qui peuvent éventuellement bloquer les virus dans les infections qu'on connaît. Il y a une autre composante de la réponse immunitaire qu'on appelle la réponse cytotoxique, qui peut être aussi très importante dans les infections virales et qui est beaucoup plus difficile à évaluer. Alors aujourd'hui, la question de la protection, c'est quoi ? C'est que analyser, rechercher ces anticorps chez les gens, même en aveugle, va nous permettre de savoir s'ils ont été en contact quelques semaines auparavant avec le virus. Donc c'est un élément épidémiologique très important pour évaluer aujourd'hui, par exemple en France, le nombre de personnes qui ont rencontré le virus. La grande question est de savoir si cette réponse immunitaire présente, qu'on peut détecter avec des tests simples qui devraient bientôt arriver, nous informe sur la protection des gens, c'est-à-dire sur le fait qu'ils ne recontacteront pas le virus. Alors, la plupart des gens qui connaissent ces infections virales qui ressemblent à celles du coronavirus disent que c'est très probable, mais il va falloir faire des tests complémentaires pour le vérifier. Et on a quelques notions dans la littérature qui sembleraient indiquer que des gens ont été soit recontaminés, soit que le virus qu'ils portent n'est pas parti complètement, et ce qui donne des fois l'impression probablement un peu trompeuse que ce virus-là pourrait revenir très rapidement. Mais encore une fois, les chercheurs, les médecins essayent d'avoir essayent de faire des corrélats, et un des corrélats importants aujourd'hui, c'est de savoir si la présence de ces anticorps peut nous permettre de dire avec un bon degré de certitude que le virus ne peut pas nous réinfecter. Et c'est la clé de la vaccination, on l'aura aussi tous compris.
Et nous accueillons le docteur Luc Perrineau. Bienvenue Luc Perrineau.
Bonjour, bienvenue.
Vous êtes médecin, épidémiologiste. Vous venez de publier un ouvrage passionnant à la découverte, ça s'appelle Patient Zéro. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un patient zéro, Luc Perrineau ?
Voilà, alors, bien sûr, je vais d'abord vous dire que ce livre n'est pas du tout opportuniste. Il a été écrit il y a plus d'un an. Il a été programmé il y a très longtemps par mon éditeur. Voilà, il est sorti à un moment un peu étrange, effectivement. On parle souvent de patient zéro. Alors, par définition, le patient zéro, avant, on parlait de cas index. On disait, c'est la première personne chez laquelle on découvre soit une maladie génétique orpheline, soit justement un nouveau virus qui était encore inconnu. Et puis, depuis l'épidémie de sida en 1980, le terme de patient zéro a été popularisé parce qu'on avait identifié le premier patient qui avait contaminé presque le quart de toutes les personnes qui avaient eu le sida aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est devenu le terme consacré pour les nouvelles maladies virales, épidémiques ou bactériennes, et on utilise ce terme en recherchant effectivement le premier patient qui aurait contracté la maladie.
Question d'actualité, sait-on quelle est la première personne infectée par le Covid-19 dans le monde et en France ?
Alors, il faut distinguer donc ce que j'appelle les foyers secondaires et puis le foyer considéré comme primaire. Donc, par exemple, connaître si on considère que la France est un foyer secondaire, ça n'est pas très intéressant de savoir quelle est la première personne qui a amené le virus en France. Bon, probablement une personne saine, comme on l'a dit, peut-être, ou un malade, mais ça n'a pas beaucoup d'importance au niveau de la recherche fondamentale. Par contre, là où ça a de l'importance pour la recherche fondamentale, c'est de trouver le premier être humain qui aurait transmis le virus donc à l'espèce humaine, à ses confrères, et qui l'aurait donc eu d'un animal, puisque c'est le cas de pratiquement toutes les émergences virales depuis le sida et sans doute même avant. Hein, au départ, ce sont des maladies animales et qui se transmettent à l'homme, et il se passe quelque chose chez un premier être humain, c'est que le virus a une mutation, subit une mutation qui lui permet d'être transmissible d'homme à homme. Et effectivement, c'est intéressant de trouver le premier pour essayer de comprendre un peu le mécanisme de ces mutations.
Vincent Maréchal, pourquoi est-il important pour le chercheur que vous êtes de savoir qui est le patient zéro du Covid-19 ?
Alors, c'est une question qui est à la fois simple et complexe. C'est cette notion de patient zéro, et c'est une notion d'épidémiologie. Notre collègue vient de le rappeler. C'est important parce que ce patient zéro, c'est pas. Alors, il s'agit pas de stigmatiser. Souvent, on peut peut-être le rappeler dans le cas du VIH, ça a été difficile parce que désigner une personne comme étant un des acteurs majeurs d'une pandémie, c'est toujours excessivement dur. Donc, il faut voir que c'est aussi ça peut être une notion difficile à admettre. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est le départ effectivement d'un processus qui est complexe. En Chine en particulier, vous le savez aujourd'hui, on considère que le virus donc a un réservoir, c'est-à-dire un animal qui héberge à l'état naturel le virus, qui serait probablement la chauve-souris. La grande question est de savoir comment on passe d'une chauve-souris à un homme. Alors il y a eu tout un tas de fantasmes sur Internet sur lesquels on va pas revenir. On pense aujourd'hui que de ce réservoir animal, et on l'a vu dans différentes situations, dans Ebola en Afrique aussi, hein, la chauve-souris est vraiment un animal. Je veux pas non plus stigmatiser les chauves-souris, mais est un animal qui en virologie nous fascine parce que cet animal chauve-souris est le réservoir de la rage, est le réservoir du virus de Marburg qui est une fièvre hémorragique très grave qui ressemble à Ebola, c'est le réservoir d'Ebola et il se trouve que ça pourrait être aussi le réservoir de ce virus Covid-19. Donc, la question qu'on se pose c'est comment on sort d'un réservoir comme celui-ci pour aller vers l'homme. Donc il y a à la fois des composantes génétiques, c'est comment le virus s'adapte, les virus en général sont très adaptés à leurs hôtes, donc comment ce virus évolue génétiquement pour s'adapter d'une chauve-souris à un animal intermédiaire, éventuellement plus à l'homme. Et donc, on suppose que le pangolin pourrait être un animal intermédiaire qui aurait permis de la contamination humaine. Mais c'est encore un modèle, mais une hypothèse.
Luc Perrineau, revenons à votre livre. Peut-on dire que les patients zéro sont moins célèbres que leur maladie ?
C'est vrai que j'ai voulu rendre un peu hommage aux patients, j'ai voulu faire un petit clin d'œil avec mon métier de clinicien pour rendre hommage aux patients qui sont oubliés dans l'histoire de la médecine. On célèbre toujours les médecins hein, en disant un tel médecin a découvert ceci, mais sans avoir eu un premier contact avec un patient, sans la naissance du couple médecin-patient, il n'y aurait pas eu de nouveaux diagnostics et de nouvelles maladies identifiées. Donc c'est vrai qu'on a oublié le nom de beaucoup de patients qui ont permis à la science d'avancer, on a souvent encore parfois oublié le nom du médecin, mais on a retenu que le nom de la maladie, alors que finalement c'est eux qui l'ont en quelque sorte inaugurée et aidée à la connaître.
Prenons par exemple le cas de Mary Malone, née en 1869 et morte en 1938. Elle a été surnommée Marie Typhoïde. Racontez-nous son histoire en quelques mots, Luc Perrineau.
Alors cette histoire, elle plaît beaucoup. Je l'ai racontée, on me l'a demandé plusieurs fois de la raconter. Alors elle est doublement intéressante, cette histoire. Elle est intéressante parce que c'est la première confirmation clinique de ce qu'on appelle un porteur saint, dont vous avez parlé tout à l'heure. L'idée de porteur saint, le grand Koch, qui est donc l'équivalent de notre Louis Pasteur en Allemagne, avait dit, mais tous ces microbes pathogènes qui nous rendent malades et que l'on redoute, comme la tuberculose et beaucoup d'autres, en fait, on peut les porter sans être malade. C'était son idée. Il avait cette idée-là, hein, l'idée de porteur saint, il l'a eu sans doute le premier. Mais évidemment, on n'avait pas de preuves, hein, c'était qu'une hypothèse. Et cette Marie Malone, donc, elle a été la première preuve vivante, la première preuve clinique que le porteur saint pouvait exister, et même exister et vivre très bien pendant très longtemps, puisqu'elle a porté ce bacille de la typhoïde. Je rappelle quand même que la typhoïde était beaucoup plus grave que le coronavirus, hein. Elle a porté ce bacille pendant 30 ans et l'a transmis à tous ses patrons, tous ses voisins, tous ses amis, pendant 30 ans, sans avoir le moindre symptôme elle-même. Elle est morte d'autre chose que de la typhoïde.
Merci beaucoup Luc Perrineau. J'aimerais que vous reveniez dans cette émission pour évoquer d'autres cas passionnants de votre livre « Patient zéro » publié à la découverte. Merci beaucoup également Vincent Maréchal d'avoir participé à l'émission. Merci. Et merci Baptiste Beaulieu. On se retrouve évidemment lundi prochain. Tout de suite, le temps de réfléchir avec Alexandre Lacroix. Bienvenue Alexandre.
Bonjour Ali.
Vous êtes directeur de la rédaction du mensuel Philosophie Magazine. Alors ce matin, vous vous appuyez sur le philosophe et psychologue américain John Dewey pour réfléchir à notre confinement.
Oui, tout à fait. Alors tout est parti en fait d'un témoignage que j'ai recueilli la semaine dernière, puisque je recueille de nombreux témoignages sur la situation actuelle, et j'ai entendu pour la première fois le terme de « cabin fever ». C'est un mot un peu de psychologie populaire qui désigne des troubles psychologiques qui surviennent quand on est enfermé dans un espace exigu, par exemple dans un studio ou dans une cabine de bateau. On peut faire cette fièvre de la cabine. J'ai l'impression que nous sommes nombreux à en être menacés aujourd'hui. Et les symptômes, c'est le fait de ne pas trouver le repos, d'être impatient et puis de se lancer dans des spéculations sans fin, de prendre des décisions irrationnelles. En fait, ce que ça décrit, c'est que la pensée, quand on est enfermé, prend son élan, mais va trop loin, en fait. Et on s'auto-intoxique à force de penser, de spéculer, de réfléchir, de ruminer. Alors, quand j'ai découvert ce terme, ça m'a amusé, parce que dans un premier temps, je me suis demandé si l'ensemble de la philosophie moderne n'était pas produite par une sorte de gigantesque fièvre de la cabine. C'est vrai que Descartes, par exemple, explique dans son discours de la méthode que ses idées lui sont venues quand il était enfermé dans un poêle, c'est-à-dire dans une chambre chauffée. Et la philosophie a souvent été produite en bureau, en chambre, en vase clos. On peut se demander si cette manière de refaire le monde, c'est pas de la cabin fever. Et puis, en fait, dans un deuxième temps, je me suis intéressé à une comparaison qui est proposée par un philosophe américain, John Dewey, dans un livre qui s'appelle « L'art comme expérience ». John Dewey, c'est un philosophe pragmatiste, et il pense que les œuvres d'art nous offrent de vivre des expériences. Et il fait la comparaison suivante, il dit que la pensée en nous, c'est un peu comme un oiseau qui vole, mais qui risque de s'épuiser. C'est-à-dire que la pensée ruminante, la pensée spéculative, il faut qu'elle se pose. Et en fait, elle a besoin de branches. Il faut que la pensée puisse souffler pour reprendre son envol. Et selon lui, l'une des expériences qui permet vraiment à la pensée de prendre du repos, outre le sommeil, hein, bien sûr, c'est l'expérience esthétique. Et donc, il compare l'écoute d'une musique, la contemplation d'un paysage ou d'un tableau, le fait de regarder un film. Alors là, j'anticipe un peu puisque le livre est ancien, mais toutes ces expériences esthétiques qu'on peut faire en période de confinement semblent être de cet ordre-là, c'est-à-dire offrir un peu de repos à cette pensée qui est sans cesse menacée d'aller toujours plus loin, de s'auto-intoxiquer, de ruminer trop fort. J'ai trouvé que c'était intéressant, d'autant plus que la conviction profonde en fait de ce philosophe pragmatiste, alors pragmatiste c'est, il fonde sa philosophie sur vraiment la réflexion sur l'expérience, la pratique, c'est que l'expérience esthétique, c'est-à-dire le contact avec les œuvres d'art, c'est ce qui nous permet de lier un contact plus profond avec notre environnement. l'œuvre d'art ne nous détache pas du monde, elle nous aide à acclimater notre environnement et les émotions qui nous relient à notre environnement. Voilà, donc je me suis dit qu'on pouvait, avec John Dewey, combattre la fièvre de la cabine en cultivant un peu l'amour des œuvres d'art.
Et je cite à nouveau le livre de John Dewey, L'art comme expérience. Merci beaucoup Alexandre Lacroix. Soutenons la presse en difficulté en ce moment. Faites un détour chez votre kiosquier s'il est ouvert quand vous faites vos courses. Abonnez-vous ou achetez Philosophie Magazine en version numérique. Dans quelques instants, le temps de regarder une série et le temps de regarder la télé.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Bonjour Xavier Le Herpeur.
Bonjour Ali Rébéi, comment allez-vous?
Ben ça va très bien, le temps de regarder une série c'est avec vous. Je rappelle que vous êtes producteur de l'émission Une heure en série le samedi à 20h sur France Inter, que l'on peut évidemment podcaster. Au programme ce matin, une série Netflix.
Absolument, intitulé Unorthodox, une mini-série allemande de 4 épisodes, disponible donc sur la plateforme Netflix, signée par deux femmes, Anna Winger et Alexa Karolinski, d'après le récit autobiographique paru en 2012 de Deborah Feldman. Trois femmes donc pour évoquer le destin d'Esti qui, un beau matin, quitte la communauté juive ultra-orthodoxe new-yorkaise où elle vivait jusque-là entre sa grand-mère complice, sa tante autoritaire et son époux timide. Lasse de tant de pression, pour ne pas dire d'oppression, épuisée de ne pas avoir le droit d'être elle-même, elle a tout mis en œuvre pour s'enfuir à Berlin où vit sa mère, une mère qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, une femme qui elle aussi a fui cette communauté pour refaire sa vie avec une femme. Mais ce que Esti ignore, c'est que son époux et le cousin de celui-ci sont à sa poursuite dans les rues de la capitale allemande, bien décidés à ramener notre héroïne avec eux, Berlin, où notre héroïne va faire la rencontre d'un groupe de jeunes étudiants en musique, elle qui rêvait de faire du piano, droit justement que les siens lui avaient dénié. En parallèle de ce récit, le scénario reconstitue par un principe de flashback, de retour en arrière, donc le quotidien confiné de cette communauté qui vit recluse sur elle-même, mais sans pour autant s'acharner ni tomber dans la critique caricaturale, et évoque la place des femmes, place à la fois primordiale, elles sont celles qui entretiennent la lignée, et pourtant secondaires. Un orthodoxe dénonce ainsi la sexualité mécanique, absente de toute notion de plaisir et source de toutes les frustrations qui régit les codes reproductifs de cette société à la religiosité extrême. Alors pour être tout à fait honnête, un orthodoxe pâtit parfois d'une écriture qui joue un peu trop, à mon goût, la carte de raccourci arrangeant pour faire avancer la dramaturgie. Mais hormis cette réserve, la série vaut d'abord pour le bouleversant portrait de cette femme perdue, égarée, qui va pourtant tout mettre en œuvre pour gagner son indépendance et son libre arbitre, une expérience de vie qu'elle va faire à tâtons, entre inhibition et courage inattendu. L'autre réussite, c'est le portrait du mari, exempt de tous les clichés et qui cisèle la psychologie d'un homme tout aussi paumé que son épouse, se raccrochant aux dogmes rigides de sa religion pour éviter de s'interroger sur lui-même. Un garçon immature, docile, influençable, qui va au fur et à mesure des épisodes s'ouvrir lui aussi à une autre perspective de vie, sans trouver, au contraire de la femme qu'il aime maladroitement mais sincèrement, le courage de s'affranchir de toutes ses barrières morales. Mais s'il ne fallait garder qu'une seule raison de découvrir un orthodoxe, eh bien ce serait sa comédienne principale, Shira Haas, une révélation, une actrice que l'on connaissait peu, mais qui irradie littéralement l'écran sans pour autant jouer la carte de la surenchère. Son jeu intériorisé, sa large palette d'émotions qui va de la fragilité extrême à une force inouïe, font de cette comédienne la bourrasque dramatique et romanesque de cette série que je vous recommande fortement.
Et vous partagez donc l'engouement de notre camarade Nicolas Demorand.
Et oui, j'ai entendu ça ce matin, mais j'étais ravi, je suis ravi d'être d'accord avec Nicolas Demorand, toujours, bien sûr.
Et c'est à voir sur Netflix. Merci
Netflix,
Xavier.
Absolument.
À demain. Bonjour Edouane Tella,
de
l'Instant
plaisir.
M.
Bonjour Ali Rébéi.
Alors, vous prenez le temps de regarder la télé. Alors, vous avez choisi ce matin un téléfilm diffusé sur France 3, La vie de Mimi. Rassurez-moi, ce n'est pas un biopic sur Mimi Mati.
Non, pas un biopic sur Mimi Mati, mais c'est d'ailleurs un documentaire, pas un téléfilm, je vous corrige Ali.
C'est un documentaire, pardonnez-moi.
Donc ouais, un documentaire, donc diffusé à 23h30, vous allez vous coucher hyper tard, mais je vous promets que ça vaut le coup. C'est simple, je n'avais jamais vu un film pareil, et pourtant Dieu seul sait à quel point je regarde la télé. Alors pendant plus de 15 ans, la réalisatrice Laure Pradal a filmé une jeune fille lourdement handicapée. Cette jeune fille, c'est Mimi, pas Mimi Mati, donc rendez-vous compte, 15 ans de vie cumulée en un seul film. Et quelle vie! On fait sa rencontre au début des années 2000 dans un centre de rééducation. Mimi n'est alors qu'une enfant, mais elle en est déjà à sa 29e opération chirurgicale. Alors on ne nous dit pas grand-chose de son handicap dans ce documentaire, mais on sait qu'il se voit. Au début du film, elle porte un lourd appareillage, une sorte de grume métallique fixée à sa tête qui lui permet de rester droite. lui donnant un peu des airs de marionnette. Elle se décrit d'ailleurs elle-même comme une marionnette montée à l'envers, car Mimi n'a pas sa langue dans sa poche, elle a un caractère explosif et irradie tout au long du documentaire par son charisme et par son franc-parler. On sent dans ce film qu'elle adore être filmée, comme elle le dit à un moment, les regards sont de fait, par son handicap, toujours braqués sur elle, alors autant en jouer. Et pour en jouer, elle en joue, elle fait la star dans ce documentaire, elle passe son temps à faire la fête et se moque même des cadreurs qui la suivent en les surnommant ses paparazzi. On suit Mimi dans cette période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, période décisive pour n'importe quelle personne, mais qui l'est encore plus pour les personnes atteintes de handicap, car c'est une période qui marque un passage vers l'autonomie. On la voit quelques jours avant le brevet des collèges, au moment où l'on se pose des questions sur la suite, sur sa future carrière, au moment où l'on commence à parler d'amour aussi, et ces questionnements, eh bien, ils reviennent tout au long du film, parce que quand on la retrouve à l'âge adulte, elle a gagné énormément en mobilité et en autonomie, certes, elle semble capable de vivre pleinement sa vie comme n'importe qui, mais Mimi n'a toujours pas de mec ni de boulot, et on sent que ça l'obsède, elle n'a pas perdu de sa bonne humeur, elle fait toujours au fond de temps la fête, elle a des amis, mais elle en veut plus. Le handicap physique s'est peu à peu transformé en handicap social. On aimerait la revoir dans 10 ans, Mimi, heureuse et épanouie, mais elle le dit elle-même dans le film, dans 10 ans, elle ne sait pas si elle sera encore là, et nous non plus d'ailleurs, alors on lui souhaite d'être heureuse maintenant, et je vous conseille de regarder ce documentaire.
Donc La vie de Mimi, un documentaire diffusé sur France 3, à quelle heure? C'est assez tard.
23h30, c'est hyper tard, on peut le retrouver en replay demain, mais franchement je vous conseille de le regarder ce soir, c'est franchement incroyable.
Merci beaucoup Redouane Tella pour votre conseil. Dans un instant, la chronique de Sophia Aram. André Laszlo de Simone interprétait Immensita.
France Inter. Grand bien vous fasse.
9h54, et il est temps de retrouver les humoristes de France Inter. Et ce matin, c'est Sophia Aram. Bonjour Sophia.
Bonjour Ali, comment ça va?
Ben, ça va bien, merci.
Bon Ali, alors, je sais. Moi, je sais hein, que pas mal de gens attendent le déconfinement avec l'impatience d'un Balkany devant un programme de défiscalisation. Certains pour pouvoir retravailler normalement ou revoir leurs proches, d'autres pour arrêter leur initiation au jogging et soigner leurs ampoules en mangeant des chips devant la télé. Mais alors moi, pas du tout. Je n'ai ni l'envie, ni le courage de me déconfiner. C'est simple, je n'ai plus aucune envie de sortir de chez moi. J'ai beau hein, faire partie des 12% de losers à être confinés en appartement sans balcon ni terrasse, je m'en fous, je ne bougerai pas. Covid ou pas Covid, j'ai réfléchi, il est hors de question que je sorte. Parce que, alors, admettons qu'on arrive à maîtriser l'épidémie de SRAS dans un mois. Admettons. Il n'y a aucune chance que l'on vienne à bout de l'épidémie, de mauvaise foi, d'incurie congénitale, de démission intellectuelle et d'affaissement moral que l'on est en train de traverser. Le volume de conneries, de lâchetés, de bêtises crasses est beaucoup trop important. Toutes les digues ont lâché. Bon, franchement, ça n'alerte personne que Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Jean-Marie Bigard, Donald Trump aient un avis sur la chloroquine, que Valérie Boyer déblatère sur le bien fondé des essais cliniques, même Franz Olivier fucking Gisbert invente pour l'occasion le concept, je cite, d'efficacité incontestable non prouvée scientifiquement. Non mais sans déconner, à ce niveau c'est plus une pandémie, c'est un naufrage. Alors, je ne sais pas hein, quel est l'effet de la chloroquine sur le Covid. J'en sais rien, moi. Je n'ai aucun moyen de le savoir, aucune compétence, rien, ni boileau, que dalle. Non, vraiment, la seule chose qu'on puisse dire sur la chloroquine, sans se gourer, c'est que c'est un appôt à con. Ah non, le plus formidable appôt à crétin de l'histoire de la pharmacopée. Une sorte d'exhausteur de bêtises, un révélateur de crétinerie. Vous prononcez le mot chloroquine et ils rappliquent tous, avec leurs pétitions nauséabondes, leur démocratie sanitaire, leur éthique pleine de miasmes et leurs sondages expérimentaux. Pire, leurs témoignages chevrotants de miraculés ne sachant plus très bien s'ils doivent la vie à la chance ou à leur croyance dans les statistiques hasardeuses d'un traitement qu'ils revisitent à l'aune de leur dévotion envers Didier Raoult, dont seule l'histoire nous démontrera s'il s'agissait d'un scientifique déguisé en druide ou l'inverse. Je me contrecogne des explications d'Estrosi sur les bénéfices comparés d'une messe en milieu confiné en période d'épidémie et de chloroquine en suppos pour lutter contre le Covid. Je dirais même plus, je m'en contrecogne velu. J'ai aucune envie d'écouter Cyril Hanouna parler de déconfinement à partir d'une pseudo-carte officielle exhumée d'un vaccin complotiste. Il peut se la remettre dans sa culotte ou ailleurs, avec ou sans nouilles. Hein. Moi, je m'en tamponne, ça ne m'intéresse pas. J'ai plus envie, moi, de croiser ces gens qui savent... Les plus jamais ça, les on n'oubliera pas, les spécialistes du déconfinement, les visionnaires du monde d'après, une pandémie qui n'est toujours pas finie. Que ce soit les tartemuges qui vantent l'opportunité de profiter d'une crise sanitaire pour faire des affaires en bourse, de se vautrer dans les dividendes ou d'abolir pour l'occasion les 35 heures, voire les congés payés, je n'ai plus envie, moi, de croiser tous ces représentants du peuple qui comptent plus sur le chaos pour prospérer que sur l'hypothèse d'obtenir une majorité dans les urnes. Alors... Voilà. Comme je suis réaliste et qu'ils ont visiblement plus de chances de guérir du Covid que d'arrêter d'être con, moi, Ali, je préfère rester confinée.
Et j'aimerais savoir ce que vous faites pendant votre confinement, Sophia Aram. Vous faites quoi?
Eh ben, je tourne en rond comme tout le monde. Pourquoi vous? Qu'est-ce que vous faites, Ali, quand vous avez fini la radio?
Oh bah écoutez, je lis, je regarde des séries, voilà, je cuisine.
Ouais,
voilà.
Je regarde par la fenêtre, j'écoute les oiseaux, il y en a en ce moment. Il y a des pigeons qui viennent devant ma fenêtre, parce que je vous l'ai dit, j'ai pas de balcon, c'est triste.
Mais oui, c'est un sondage IFOP qui dit ça, 12% des Français ne bénéficient pas d'un balcon ou d'une terrasse, contre 63% des Français qui vivent dans une maison avec jardin. Voilà. Merci beaucoup, bah Sophia Aram.
J'en suis.
On se retrouve lundi prochain. Dans un instant, nous allons recevoir Ariane Chemin qui esquisse quelques pistes hein, du monde d'après le confinement. Et puis en dernière partie, nous évoquerons le documentaire diffusé demain sur Arte, Un monde obèse. Toutes vos questions au 01 45 24 7000.